Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission du jeudi après-midi, je suis venue vous lire sur Jet FM. Aujourd'hui, portrait de famille. Famille d'hier ou d'aujourd'hui, père aimé, tendre, absent ou héroïque, mère remarquable, infatigable, bienveillante, frères et sœurs, grands-parents, oncles, tantes, cousins, cousines ou amis de la famille. Et si tout au long de cette émission, on leur tirait le portrait? À qui ressemblez-vous? À votre père ou à votre mère? Oh, vous savez, je ne veux faire de tort à personne, répondait Michel Simon. Un proverbe japonais à propos de la famille dit « On reconnaît l'arbre à ses fruits ». Et chez ces gens-là, on reconnaît le rouquin aux cheveux du père et le requin aux dents de la mère. La mère, celle qui dit rien, ou bien n'importe quoi.
D'abord, y a l'aîné, qui est comme un melon, qui a un gros nez, qui sait plus son nom, cieux, tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans les
Et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être. Parce que les autres veulent pas, parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais vu de chat, ou alors bien longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès. Avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut que je rentre chez moi.
Ah, la famille, cette fabrique à souvenirs. Mouloudji disait de lui, pour évoquer sa famille, « Je suis catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu juif par mon fils, et athée grâce à Dieu. » Qu'on l'appelle clan, réseau, tribu ou famille, quel que soit le nom qu'on lui donne, chaque famille a une histoire, son histoire. La mère fait du tricot, le fils fait la guerre, elle trouve ça tout naturel, la mère. Et le père, qu'est-ce qu'il fait, le père ? Il fait des affaires. Sa mère fait du tricot, son fils la guerre, lui des affaires. Il trouve ça tout naturel, le père. Et le fils, qu'est-ce qu'il trouve, le fils ? Il ne trouve rien, absolument rien, le fils. Le fils, sa mère fait du tricot, son père des affaires, lui la guerre. Quand il aura fini la guerre, il fera des affaires avec son père. La guerre continue, la mère continue, elle tricote. Le père continue, il fait des affaires. Le fils est tué, il ne continue plus. Le père et la mère vont au cimetière, ils trouvent ça naturel, le père et la mère. La vie continue, la vie avec le tricot, la guerre, les affaires, la guerre, le tricot, la guerre, les affaires, les affaires, les affaires, la vie avec le cimetière.
Toi que j'ai connu à l'école, chevalier, cow-boy, justicier, bonhomme qui joue et qui ricole dans son bien-être journalier. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Y a eu ce coup de vent sur ton crâne qui a emporté tous tes cheveux, ce nouveau copain en terminale, puis ces deux flingues au fond de tes yeux, deux ou trois échecs en amour, une sacrée bonne dose d'ennui, plus d'ignorance de jour en jour, et puis ces livres interdits. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Ce sont des petits morceaux de peur un peu partout disséminés, des petits fragments de frayeur qui finissent par s'assembler. Rien que des petits morceaux de peur que l'on t'a gentiment donné, des limailles, des copeaux de terreur qui paralysent la pensée. Et puis tu as suivi la horde, les chiens, les grenades, les canifs ont attisé ta notion de l'ordre et ton goût pour le punitif, le désir d'éliminer tout ce qui ne te ressemble pas. Mais ignorant ce que tu es, tu as buté n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant ce chemin parcouru? Et qu'est-ce qui t'a fait devenir ce que tu es devenu? Ce sont des petits morceaux de peur un peu partout éparpillés, des débris, des tessons de terreur qui t'incitent à ne pas changer. Rien que des petits morceaux de peur qui paralysent la pensée, des éclats et des bris de frayeur qui effacent une identité. Vivre ta vie à pile ou faf, ta pièce t'a rendu sa monnaie. C'est l'heure d'écrire ton épitaphe sous une croix qui n'est pas gammée. Y'a personne d'autre que moi sur terre, le jour de ton enterrement, à franchir la grille du cimetière, vois, tous tes copains sont absents. Et maintenant, jour où nous sommes, je ne suis qu'une maman qui pleure son petit bonhomme. Ce sont des petits morceaux de peur qu'à droite à gauche j'ai glané, des éclats, des débris de terreur. Tiens, je t'en ai fait un bouquet. Rien que des petits morceaux de peur qui paralysent la pensée, des petits fragments de terreur qui t'obligent à ne plus bouger. Rien que des petits morceaux de peur. Rien que des petits morceaux de peur. Rien que des petits morceaux de peur.
Voici l'histoire de ma mère et de mon père. Leur enfance dans une époque où la faim était une souffrance, privée trop souvent de nourriture, dans une campagne dévastée par la guerre. Gaston Chessac raconte dans une longue lettre à un ami l'enfance de son père et de sa mère. Quand ma mère se rendait à l'école, ce qui n'arrivait pas tous les jours, car le plus souvent elle gardait les moutons, ou plutôt c'était les moutons qui la gardaient, disait-elle plus tard. Elle faisait la route de son hameau au village avec d'autres enfants. Et sur leur passage, des vieux les appelaient « pain perdu ». Pour sa première communion, elle a eu sa première paire de souliers. Elle en fut si heureuse qu'elle en sautait de joie, comme jamais elle n'avait pu le faire avec ses sabots. À 11 ou 12 ans, elle allait à pied au marché, distant de 11 kilomètres, porter le beurre et les œufs. Puis ses produits vendus, elle s'en revenait avec un peu de ce cirat argent, et les pieds meurtris et les bras encore coupés par ses lourds paniers et tout le corps arasé. Une fois rentrée à la maison, elle mangeait sa soupe qui était bien épaisse car le pain ne manquait pas chez eux, heureusement. Il n'en était pas de même dans la famille où mon père a vu le jour et on l'envoyait mendier ce pain indispensable pour entretenir la vie chez eux qui en avaient. Il allait d'un village à un autre, aussi vite que le pouvaient lui permettre ses petites jambes et il rentrait dans chaque maison. Honteux. Quand il eut 7 ans, un cultivateur le loua pour garder son troupeau de moutons. Quand il rentrait le soir, il mangeait la soupe que lui avait trempée sa maîtresse dans l'écuelle, où elle se débarbouillait en guise de cuvette, le premier et le troisième dimanche de chaque mois. On a beau être pauvre, avoir été mendiant, on n'a pas pour cela le cœur bien accroché. À 17 ans, il réussit à s'évader de lui-même de cette vie. Ma mère, mon père, pauvres victimes de l'égoïsme, de la cupidité des hommes, ce sont eux qui parlent en moi.
Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. Le petit matin frileux, mon vieux, il y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut, mon vieux. L'été on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère, c'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux, mon vieux. Les dimanches étaient monotones, on ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Nous, on connaissait la chanson, tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé. C'est dehors que j'allais chercher, pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Même quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa.
Une mère sermonne son fils. Écoute, si tu es sage, tu iras au ciel. Si tu n'es pas sage, tu iras en enfer. Le petit garçon réfléchit quelques secondes et dit à sa mère « Et qu'est-ce que je dois faire pour aller au cirque ?» Ce garçon, c'est Adrien, le fils de la maison. La quarantaine aujourd'hui, déprimé, suite à un chagrin d'amour. « Tu as l'air fatigué, Adrien. Tu es sûr que tu dors assez ?» Ma mère me trouve toujours fatiguée, toujours amaigrie, toujours pâle. « Non, maman, je ne suis pas fatiguée. Je vieillis, j'ai 40 ans, j'ai perdu mes illusions. Je ne ris plus comme à 13 ans, j'ai moins envie, c'est comme ça. » « Tu auras envie de rire, toi, si ton beau-frère venait te demander de faire un discours pour son mariage ?»« Ben non, évidemment que non. N'importe qui aurait l'air fatigué après une telle requête. » L'année de mes 30 ans, j'ai sombré dans une profonde dépression. Un chagrin d'amour, un de plus. J'étais revenue passer quelques jours chez mes parents. J'avais besoin de repli fœtal, de retour aux sources, quand bien même je n'avais plus rien de commun avec la source. Je me souviens qu'un soir, pendant que ma mère préparait le repas, debout dans la cuisine, j'avais essayé de lui parler de mon mal, la dépression, sans l'affoler mais sans l'épargner non plus. J'avais besoin de partager ça avec elle, lui dire à quel point j'étais rongée, à quel point j'en souffrais. Ce à quoi elle avait répondu « Tu dois boire du jus d'orange ». Voilà, c'était ça la solution de ma mère, boire du jus d'orange. Je vivais avec l'idée de la mort en permanence. Le monde autour de moi était un énorme gouffre sans fond. Je n'étais plus en mesure de percevoir l'extérieur autrement qu'à travers un filtre charbonneux. La finitude m'apparaissait en toute chose. Et ma mère me conseillait de boire du jus d'orange. Le soir même de mes 30 ans, j'étais sur le canapé avec mes parents, et nous avions regardé le gendarme de Saint-Tropez. Et c'est probablement la définition la plus précise que l'on puisse donner de la dépression. C'était l'été, c'était un samedi soir, le monde s'activait, grouillait. Ailleurs, il y avait des festivals, des concerts, des familles en short sur la plage, des rires, des cocktails au nom brésilien, de la moiteur au clair de lune, des tubes de l'été qui font se frotter les ventres les uns contre les autres. Et moi, je regardais Louis de Funès courir derrière les filles nues et mes parents riaient comme si ce n'était pas la 36e fois qu'ils voyaient cette scène. Si à 17 ans, on m'avait dit « Le soir de tes 30 ans, tu regarderas le gendarme de Saint-Tropez seul avec tes parents », je ne sais pas si j'aurais eu envie de continuer la route. Et j'en ai 40. Et la vie est un éternel recommencement. Et il est écrit que je passerai toutes mes dizaines d'années chez mes parents avec le cœur broyé. À 50 ans, je serai là, assis à la même place, et une Élodie, une Alice ou peut-être une Chloé m'aura brisé le cœur. Et Ludo, mon beauf, me glissera dans le creux de l'oreille. « Dis donc, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu pouvais faire un petit discours pour la communion de notre petit Kevin. » Et là, m'apparaît que l'existence n'est pas un segment, comme on en a parfois la perception mentale, mais un cercle de 10 ans de circonférence sur lequel on tourne comme un cheval de cirque. Et tous les 10 ans, on passe par ce même point, le point de chagrin d'amour chez ses parents. Mais après tout, tant qu'il y a des oranges, il y a de l'espoir.
Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son. And I'm inclined to do as my father's done. My father's done.
Adrien a une sœur qui s'appelle Sophie. Il nous la présente. Adrien, je te sers, tu aimes le poivron ? Je n'arrive jamais à me souvenir. Non, Sophie, je n'aime pas le poivron. J'ai toujours détesté ça. Tu n'as jamais su quels étaient mes goûts, Sophie. Jamais tu t'es demandé ce qui m'intéressait réellement, ce qui me passionnait. Pour mon anniversaire, tu m'as toujours offert des encyclopédies. Des encyclopédies. De 8 à 40 ans, chaque année, à chacun de mes anniversaires, une encyclopédie. Fais le compte, Sophie. 32 encyclopédies. 32. 32 avec toujours la même phrase d'accompagnement. Tiens, frérot, bon anniversaire. Oh, avec toi, c'est facile, tu adores les lire. Ah, je les ai toutes. Je les ai toutes eues, ces encyclopédies. Sur le thème solaire, l'univers, les oiseaux, les insectes, le football, le Moyen-Âge, les primates, les félins, l'Égypte, les instruments de musique. Et j'en passe et j'en passe. Les grottes, les fleurs, les chevaux. Bon, j'ai même eu deux fois l'encyclopédie sur la préhistoire. À 15 ans et à 22 ans. Quand Internet a fait son apparition, je me suis dit non, elle ne va quand même pas oser. Pas à l'ère du numérique, pas maintenant qu'il suffit d'un clic pour obtenir la moindre information sur n'importe quel sujet. Eh ben si, encyclopédie, comme une sorte de running gag, mais un running gag qui ne se serait pas destiné à faire rire. Pourquoi des encyclopédies ? En 32 ans, tu imagines bien que j'ai eu le temps de me poser la question ? Je cherche encore la réponse. Inutile de te dire que je n'ai jamais ouvert une seule de ces encyclopédies, sauf peut-être la première. À la deuxième déjà, intuitivement, je savais que c'était plié. J'avais compris que désormais, mes anniversaires ne t'empêcheraient pas de dormir. Chaque année, je les rangeais dans ma bibliothèque où elles finiraient paisiblement leur vie sans jamais voir le jour. J'aurais pu m'en débarrasser, les jeter, les donner au Secours Populaire, les offrir à mon tour ou les revendre sur eBay. Mais c'était risqué. Même si tu n'es pas souvent venu chez moi, chaque fois, tu ne manquais jamais de jeter un petit coup d'œil discret à la bibliothèque, comme pour t'assurer que j'étais toujours féru d'encyclopédie. De fait, quand je savais que tu venais, je les plaçais bien en vue, dans le coin spécial encyclopédie, comme on s'applique à porter le pull qui gratte que la grande-tante nous a offert lorsqu'on va la voir. Quand quelqu'un venait chez moi, il finissait toujours par s'approcher de la bibliothèque. « Tiens, tu t'intéresses aux encyclopédies ?» Et eux aussi, à la moindre occasion, m'offraient une encyclopédie. Grâce à toi, Sophie, j'ai été promue passionnée d'encyclopédie. On m'a imposé une passion que je n'ai jamais osé démentir, comme je n'ai jamais démenti le moindre malentendu me concernant tout autant par lâcheté que par paresse. À mon ancien boulot, par exemple, tout le monde m'a appelé Aurélien pendant 2 ans, sans que j'ose rectifier. Alors, tu vois, on n'est plus à ça près. Aurélien, passionnier d'encyclopédie, ça ou autre chose. Qu'importe la réalité, ne vaut pas suffisamment la peine pour que je m'échine à la faire exister. Non, merci Sophie, pas de poivron s'il te plaît. Ah, c'est bien ça, c'est le poivron que tu n'aimes pas. Je ne sais jamais si c'est le poivron ou le concombre. C'est pourtant facile à retenir, Sophie, le poivron et les encyclopédies. À la fin du repas, ma sœur me tend mon café. Me demande combien de sucre. Aucun, Sophie, je ne mets plus de sucre dans mon café depuis des années. Pas plus que je n'y ajoute des morceaux de poivron. Mais qu'importe, on n'est plus à ça près. On a de la marge. Il faudra un jour quand même que je te dresse la liste de tout ce que je n'aime pas, n'aime plus, n'ai jamais aimé, et abandonné. Mais qu'est-ce qu'on se dirait ensuite ? Une fois enlevés les ratés, que nous resterait-il à partager ? Notre méconnaissance de l'autre est notre seul lien.
Comment te dire, ça me fait de la peine. Je vais pas te mentir, malgré l'ampleur du phénomène. J'ai pas le souvenir de t'avoir vu zen, non. Tu les fais s'enfuir, sans deviner ce qui les gêne. Ah, ça reste entre nous, vivre avec toi est un cauchemar. Ouais, j'aimerais t'aider, j'aimerais te croire. Mais je te connais par cœur, en long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur, je te connais par cœur. Ouais, petite sœur.
Tiens, prends donc un mouchoir. J'aimerais t'aider, j'aimerais te croire. Mais je te connais par cœur. En long, en large, en travers, petite sœur. Je te connais par cœur. Je te connais par cœur. Oh yeah. Je te connais par cœur. Je te connais par cœur. En long, en large, en travers, petite sœur.
Et qu'en est-il du père ? Ce père, ce héros ? Dans ma prochaine vie, papa, j'aimerais te reprendre comme père. Belle preuve d'amour d'un fils à son père. Mais quelquefois, la vie réserve des désenchantements, des désillusions, des drames. Et ce père tant aimé devient le pire de nos ennemis. Voici le portrait du père de Nobu. Nobu, il est japonais. Le ciel est immaculé. Il est 2 heures de l'après-midi. Je marche sur le chemin de la digue en observant les pêcheurs sur la berge. La rivière me fait penser à ma ville natale, Kob, près de chez mes parents. Il y avait une grande rivière qui menait jusqu'à la baie d'Osaka. L'eau était pure. Je m'y baignais avec mon frère. Au printemps, mon père y allait pour pêcher. Soudain, je sens la douleur m'envahir. Devant mon esprit passe l'image de mon père, seul, au bord de l'eau. Sa silhouette de dos reste immobile, longtemps, comme si déjà il était mort. À ce moment, je réalise qu'il aurait 60 ans cette année. Je suis née à Fukuoka, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Mon père rédigeait comme pigiste des articles historiques pour des journaux et des revues littéraires. Il enseignait aussi le français dans des écoles de langue. Son rêve était de devenir romancier. Il envoyait ses manuscrits à des éditeurs de Tokyo, mais sans jamais être publié. Mon père gagnait assez pour nourrir sa famille, mais dépensait tout, sans compter. D'après ma mère, son compte en banque était toujours vide. Sa voiture était luxueuse et ses vêtements de grande marque. Il achetait quantité de livres chers à la fois. En plus, c'était un grand buveur. Il ne manquait jamais d'alcool chez nous. Mon père croyait que j'avais du talent pour la musique. Quand j'ai eu 5 ans, il a acheté un piano droit, tout neuf, et m'a engagé un professeur de musique. Mais c'est ma mère qui devait tout payer, en faisant n'importe quel travail. Serveuse de café ou de restaurant, couture d'appoint à domicile, etc. Malgré tout, elle était contente, car je pratiquais avec assiduité mon piano. Après mon entrée au lycée, mon père a commencé à s'absenter souvent de la maison, surtout les week-ends. Il nous disait devoir visiter divers endroits pour faire des recherches. En réalité, il se promenait avec son amante, sa maîtresse, une de ses anciennes étudiantes de français. Et un jour, mon père nous a dit « Cette fois, je dois visiter la région du Kinki, surtout la préfecture de Nara. C'est pour mon nouveau roman. » Je crois que le royaume de Yamatakikou existait. L'histoire doit donc se passer à Nara. Nous l'avons pris très au sérieux. Il est parti en train. 3 jours plus tard, les dépouilles des 2 amants ont été repêchées à l'embouchure de la Yamato. Ils s'étaient suicidés ensemble. Ah, ce fut un grand scandale. Tout le monde en parlait dans notre ville. Au lycée, des élèves se moquaient de ma famille. Je voulais disparaître. J'avais honte de mon père. Ma mère et moi étions dans la gêne. Mon père ne nous avait laissé que des miettes. Et que des dettes. Il avait hypothéqué notre maison pour financer ses dépenses. Nous avons vendu le piano, la voiture, les livres, mais cela n'a pas suffi. On a dû vendre aussi la maison. Comme je ne voulais plus vivre à Fukuoka, ma mère a contacté son frère qui habitait à Kobe. Kobe est loin de Fukuoka. On ignorait le scandale de mon père. Je respirais.
眠ってる間に夢見てる間に 時は流れ過ぎてゆく。子供の頃はもう夢の中、時は時は今も過ぎてゆく。あなたの愛に溺れているうちに、時は儚く過ぎてゆく。お前は可愛い、あの言葉もあなたさえも今は遠い夢。眠ってる間に、歌ってる間に、自由な時は行ってしまった。戦いの中傷つきながら、時は時は今も過ぎてゆく。それでも私は歌に生きる。それでも私は愛に生きる。私は歌う、あなたのために。時は時は甘い短い、眠ってる間に、夢見てる間に、歌ってる間に、時は過ぎてゆく。
Ma mère, cette promesse de l'aube, disait Romain Gary. L'amour d'une mère, c'est la conviction que ses poussins sont des cygnes, même si ses enfants sont convaincus d'être de vilains petits canards, écrivait Pamela Brown, poète australienne. La femme pouvant être mère, on en a déduit qu'elle devait l'être. Toutefois, on ne naît pas mère, on le devient. Ma mère a 68 ans cette année. Ça fait 4 ans qu'elle est atteinte de démence. Le premier symptôme de sa maladie fut une migraine inhabituelle. Je l'ai aussitôt amenée à l'hôpital, mais on n'a trouvé aucune anomalie cérébrale. Puisqu'elle n'en a pas souffert, depuis elle n'est pas retournée voir le médecin. Pourtant, à mesure que le temps passait, son comportement est devenu bizarre. Elle oubliait constamment ses affaires, même la clé de la maison. Pire encore, elle s'est mise à dire à nos voisins « Ah, ma belle-fille cache mes affaires, elle est méchante ». Ma femme était embarrassée. Le médecin nous a dit qu'il n'y avait pas de traitement pour cette maladie et que ma mère pouvait encore habiter chez nous. Cela nous a troublés. Nous ne savions pas comment la traiter. Alors nous avons lu des livres médicaux à ce sujet. L'année dernière, le poste de police du quartier m'a un jour prévenu qu'on y gardait ma mère. Elle ne se souvenait plus où se trouvait sa maison, bien qu'elle portait avec elle son carnet d'adresse et des numéros de téléphone. Lorsque j'y suis arrivée, elle m'a dit en souriant « J'attends Banza Sam, où est-il ? » J'ai été très étonnée, Banza est le prénom de mon père. J'ai gardé mon sang-froid, je lui ai dit que Banza Sam ne viendrait pas la chercher, parce qu'il était parti en voyage d'affaires en Mandchourie. Elle l'a cru et m'a suivie à la maison sans problème. J'ai eu des sueurs froides. Depuis lors, son état s'est aggravé plus vite qu'avant. J'ai demandé conseil à son médecin, qui m'a recommandé une maison pour les gens atteints comme elle. Je l'ai visitée et j'ai décidé d'y placer ma mère, car le personnel me semblait très sympathique. Cependant, pour la convaincre d'y aller, j'ai eu recours au même mensonge. C'était à cette maison que Banza Sam viendrait la chercher. À ma surprise, elle a accepté sans hésitation. J'ai expliqué au personnel de la maison que mon père était mort en Sibérie, mais que ma mère croyait qu'il était parti en voyage d'affaires en Mandchourie, pays qui n'existe plus comme tel aujourd'hui. Depuis quelque temps, la communication avec elle devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, elle ne reconnaît plus les membres de sa famille. Nous essayons quand même de lui répéter chaque fois qui nous sommes. Par contre, elle se souvient très bien de l'époque où elle a rencontré mon père. En fait, jusqu'à ce qu'elle tombe malade, elle croyait à l'existence de mon père en Sibérie et à son retour au Japon, alors que j'avais abandonné cet espoir depuis des années. Je lui disais que ce n'était pas réaliste du tout de l'attendre si longtemps sans jamais avoir reçu la moindre nouvelle. Elle insistait. « Mon fils, mon intuition me dit que ton père est toujours vivant. Quand je verrai son corps de mes propres yeux, alors j'accepterai la réalité de sa mort. Jusqu'à cet instant, je ne m'y résignerai jamais. » Ma mère avait 43 ans quand mon père a disparu en Sibérie, en 1945. Elle est pratiquement veuve depuis ça. Sa vie n'était pas facile. Pourtant, comme elle était active et dotée d'un caractère ferme, je n'avais pas envisagé qu'elle devienne gâteuse si jeune. Quel dommage. Je souhaitais qu'elle mène une vie heureuse, entourée de ses petits-enfants. Je ne sais pas combien de temps elle vivra encore, mais j'espère qu'elle pourra mourir sans trop de souffrance. D'esprit, de la perception, l'amour dans ce qu'il y a de plus grand, avec une grande connaissance de soi, ample et profonde, la sagesse qui croît tout en finesse au fur et à mesure qu'on l'applique, quel que soit le nombre des années. Cette femme, c'est ma grand-mère. Devenir grand-mère, me disait-elle, c'est comme tomber amoureuse avec la naissance de ses petits-enfants. Comptez que le fait d'avoir mis au monde une mère qui a enfanté suscite une fierté, un rayonnement qui porte à la grandeur et qui génère de la vie au lieu de la rendre morne. J'aime l'idée formulée par certaines aïeules que l'on peut entendre ce terme au sens de « grande mère », la source de vie, le bain primordial. Aujourd'hui, ma grand-mère est très âgée. Ricardo Montserrat disait « Chaque personne en fin de vie est une œuvre d'art, fragile, en danger, menacée, en besoin d'attention, de soins, de protection, d'écoute, en besoin de regards, de liens, de mots, de gestes, d'images qui permettraient d'exprimer l'indicible, l'impossible à dire. « Rien ne m'intéresse plus », dit ma grand-mère, ses yeux se baissent. Mais la musique commence. La vieille femme se met à pleurer. Elle est seule en elle-même. Elle est dans l'isolement. Et pourtant, elle change à vue d'œil. Sa voix tremble. « Oh, vous êtes léger comme des oiseaux !» À la fin, elle dit « C'était beau, c'était beau, j'avais envie de vous revoir !» À la fin, elle dit aussi, quand les danseurs la remercient d'avoir ouvert sa chambre, « C'est normal d'ouvrir ma chambre !» Et voilà comment une femme dans l'isolement se retrouve à ouvrir sa chambre avec des étrangers, des corps étrangers. « D'ouvrir ma chambre à des oiseaux » rit-elle. L'image des oiseaux qui s'envolent revient sans cesse. Il ne faut pas y voir une image des danseurs, même si les danseurs ont l'air de sortir de la mouette de Tchekhov. Par les fenêtres sans cesse, les goélands se disputent les airs. C'est plutôt une image du désir des spectateurs, surpris par cette éruption dans les cages que sont l'âge et la maladie. Le jour où ils proposent aux pensionnaires de participer à leur échauffement traditionnel, où ils esquivent quelques pas de danse, tous applaudissent. Les mains, au bout des bras amaigris, sont des ailes qui s'ébrouent. Ce ne sont pas les danseurs qu'ils applaudissent, mais l'image d'eux-mêmes, que la danse a réveillée. Une image oubliée, pirouette, adage, touchée, les mains, les coudes, les épaules. Tout à coup, le corps oublié existe. Le corps oublié est stimulé. Il se voit, se revoit, dans le couple qui danse près d'eux. Ce qui est stimulé n'est pas le corps, mais le souvenir qui s'était effacé et n'avait pas disparu. Dans le miroir de la mémoire, par l'encadrement du couloir, entrent sur la pointe des pieds deux enfants qui ne disent pas un mot, mais redonnent vie à la vie. Les souvenirs ont-ils un corps? La réponse est à peine murmurée, à peine audible, un courant d'air, un frisson. Ma grand-mère, vieille femme ajoutée, que la danse apaise au point qu'elle se surprend à chanter pour les danseurs, comme elle le faisait jadis à la fin des repas solennels ou au long des balades sur les sentiers côtiers. Ma grand-mère sourit, applaudit, demande ce qu'elle pourrait leur offrir, évoque soudain son père, à qui le danseur ressemblerait, croit-elle. Ce n'est pas le danseur que ma grand-mère voit, mais elle toute petite, dans l'admiration de son papa. Les grands gestes de son papa qui remplissaient l'espace de la maison. Quand son père entrait dans la chambre changeait. Quand papa la soulevait pour la jeter en l'air et la faisait crier, le monde était si léger. Lorsque les danseurs se produisent dans le hall, les expressions des visages montrent à quel point les résidents sont captivés. On entend des « Oh là !» et autres expressions fortes du plaisir et du bonheur des retrouvailles. Pas vraiment les retrouvailles, juste la rémanescence. De bonnes familles, oh, des bonheurs familiers. Du coup, l'espace du couloir, celui de la salle à manger, celui de la chambre à coucher ne seront plus jamais les mêmes. Magie de la danse, il ne s'agit pas d'un espace qui change parce qu'on a refait la peinture, qu'on y a rajouté des fleurs, mais d'un espace qui s'est rempli d'humanité, de beauté humaine. Ma grand-mère s'en ira peu après. Sans doute a-t-elle emporté dans l'au-delà ce corps retrouvé, ce corps céleste, comme on le dit d'une étoile perdue dans le ciel.
Je dis pas que c'est pas marrant de parler de ton Dieu quelque part qui t'attend. Pourquoi tu flippes autant ? Je dis pas que c'est pas marrant de te voir à 20 ans. Vous êtes jeune, vous faites vieux à cause du noir et blanc. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de la guerre, des tickets de rationnement ou des bombardements. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de Mitterrand ou de Michel Drucker. Il est tellement charmant.
Désolé mémé, mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mémé, mais là je dois rentrer maintenant.
Je dis pas que c'est pas marrant de parler de grand-père, de son tempérament et de son enterrement. Je dis pas que c'est pas marrant de parler du cancer, de plaindre les mourants, de compter les survivants. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de Poulidor, des frères Jacques, d'Yves Montand ou de Marcel Cerdan. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de la mort, de penser aux absents, se souvenir d'antan.
Désolé mémé, mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mémé, mais là je dois rentrer maintenant.
Je dis pas que c'est pas marrant de parler de l'arthrose. Et même si tout fout le camp, pas de fauteuil roulant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler du beau temps, pour parler de quelque chose quand c'était mieux avant. Je dis pas que c'est pas marrant de parler de faits divers, des enlèvements d'enfants, de plaindre les parents. Je dis pas que c'est pas marrant de devenir incontinent, comme la reine d'Angleterre ou comme au Vatican.
Désolé mémé, mais là je vais pas rester longtemps. Tu me connais, je suis comme ça, je passe en coup de vent. Excuse-moi mémé, mais là je dois rentrer maintenant.
Je dis pas que c'est pas marrant de chanter cette chanson. C'est pas toi qui es dedans, quelques idées seulement. Je dis pas que c'est pas marrant de jouer au petit con qui se moque. Évidemment, tu sais m'aimer tellement. Je dis pas que c'est pas marrant de manquer de courage, de pas te voir plus souvent, tu sais m'aimer tellement. Je dis pas que c'est pas marrant si j'arrive à ton âge, de pouvoir en faire autant, tu sais m'aimer tellement.
Celui que j'apprécie beaucoup, c'est mon cousin Martin. C'est un drôle de petit gars, Martin. Malgré ses façons anards, il a toujours filé doux. Mais ce matin, Martin débarque à la maison, le bec enfariné. Il est convoqué tout à fait cessante au commissariat central pour tirer au clair une sorte de casse-tête le concernant. Sa main tremblote lorsqu'il me tend la notification officielle l'invitant à faire FISA. Pas rassuré du tout, il voudrait que je l'accompagne. Évidemment, c'est un sale coup pour la fanfare, je lui dis comme ça en rigolant. Surtout par les temps qui courent, tu comprends. Mais enfin, c'est mon cousin, Martin. Alors, je ne me fais pas prier davantage. Je passe mon par-dessus, coiffe mon feutre gris, et nous voilà tous deux partis à pied pour l'autre bout de la ville. Depuis peu, en effet, le nouveau commissariat central a pris ses aises dans le quartier Rupin. Chemin faisant, nous nous efforçons de recenser toutes les petites bévues et moindres manquements à la stricte application des règles et des lois dont il aurait pu se rendre coupable et d'en envisager les possibles conséquences. Martin n'a pas d'auto, il est d'une maniaquerie à s'acquitter scrupuleusement de son ticket lorsqu'il lui arrive d'emprunter le métro, et ce malgré la cherté des trajets. Il a toujours réglé rubis sur l'ongle la pension alimentaire de son ex-bergère, bien qu'elle soit à l'abri du besoin. Il ne trouve jamais en retard d'un jour sur son loyer payant pile au terme son propriétaire. Enfin, ce n'est pas le genre d'étourdi à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas en ce moment. Martin, malgré ses façons anards, il a toujours filé doux en somme. Au Malassis, où nous faisons halte pour marquer le coup, il m'avoue, tout en mouillant délicatement son vin goutte par goutte, se souvenir avoir traversé avant-hier l'avenue Thiers, hors les clous, au niveau de la rue Jean-Bouille, et pour se rendre chez son coiffeur. « Dis donc, Jean Valjean, tu n'aurais pas volé un pain aussi ?» Quand même, la plaisanterie détend un peu l'atmosphère. Nous remettons une brève tournée, lui son sempiternel godet de Beaujolais, moi mon ballon de Mâcon, et pour le débrider définitivement, je vais te rouler en douce, je lui dis la cigarette du condamné. 10h10, il est temps de décaniller. J'ai laissé Martin à 11h-25, montre en main, à l'entrée du commissariat central. J'ai reluqué un moment les innombrables boutiques d'antiquaires alentours, lu le journal de A à Z, cassé la croûte d'une portion de poulet moutarde et d'une cervelle de canut au dernier service du café comptoir. J'ai poireauté de la sorte toute l'après-midi dans l'attente qu'il en ait fini de se débrouiller avec ces messieurs d'une hypothétique sac de nœuds. Je l'ai jamais revu. Ce soir, descendant la poubelle, comme je trouve une fois de plus la couturière du deuxième sur son palier, celle qui se veut toujours très informée et connaissant bien les dessous, je lui touche un mot de mon étrange aventure pour voir un peu. Alors, entre deux portes, le regard soudain inquiet et sous le sceau du secret, elle m'assure qu'ils ont décidé ces jours derniers de faire disparaître 60 à 70% des Martins, puis elle rentre précipitamment chez elle et tire la targette. Je reste un instant planté là, tout interdit, m'interrogeant sur le sort réservé à ce pauvre Martin et maudisant l'époque. Je reconnais bien volontiers que les Martins envahissent un peu le Beautin. Il y en a vraiment beaucoup, c'est certain. Mais quand même...
Connaissez-vous mon cousin, celui qui est natif dans un? Paraît qu'il est bête comme ses pieds, mais qu'est-ce qui fait bien les pompons? Il est peut-être un peu flemmard, mais c'est un drôle de zigomard. Avec un engin pareil, il faut avoir un appareil qui ne fonctionne qu'à la vapeur, à raison de 10 nœuds à l'heure. Je vous dirais bien où il habite, il pourrait vous montrer sa boîte, mais il n'y a plus grand-chose dedans depuis son dernier accident. C'est un beau jour à l'usine qu'il a perdu ses petites cousines. En se baissant pour un réglage, elles sont parties dans l'engrenage. Je m'en souviens, il a dit ouille, où est passée ma paire de gants? Puis il a cherché dans ses fouilles, il n'y avait plus rien, évidemment. Et depuis ce jour maudit, tout du moins à ce qu'on m'a dit, paraît qu'il fabrique des accus et qu'il les charge avec son cousin. N'importe quel boulot, il s'en fiche, pourvu qu'il en ait plein les mains. Pompiste ou bien haltérophile, tout ce qu'il veut c'est qu'on l'engage. Faut aussi que vous sachiez qu'à ce propos il m'a fait peur. Le jour où dans le vestibule il a voulu que je l'entende, moi qui suis pour la paix des races, cette fois j'étais bien coincé. Il a donc fallu que j'y passe, d'ailleurs on a recommencé. Mais ce n'était pas par vice, dans le fond c'était pour l'aider. J'ai voulu lui rendre service car on n'est jamais trop aidé. Maintenant j'en suis convaincu, d'ailleurs ça rime avec mon cœur. Une fois ses préjugés vaincus, on ne connaît plus son bonheur.
Notre émission se termine à présent, mais nous avions envie de vous faire part dorénavant et à chaque fin d'émission du coup de cœur musical de Michel, celui qui est derrière là, dans ses manettes à la technique. Donc je laisse Michel vous présenter son coup de cœur.
Amis auditeurs et auditrices, bonjour. Donc à compter d'aujourd'hui, nouveauté dont je suis venu vous lire. À la fin de chaque émission, je vous proposerai un titre coup de cœur tiré de ma discothèque. Pour cette première, nous débuterons avec, non pas un coup de cœur, mais un vrai coup de poing dans la gueule, donné par Yves Jamais, qui passait par là.
Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui fondent les espoirs d'un c'est possible à deux. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui font de les espoirs, là c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, c'en était presque chiant de vous sentir heureux. C'est dans cet esprit-là que je franchis le seuil de cette jolie maison. Et d'un désir nuptial, mais là je reste quoi? Interdit sur les cœurs qui brisent la passion en horreur conjugale. Nous voilà tous les deux accablés de silence. Je cherche en vain les mots qui pourraient te porter, effacer tous ces bleus, enfin des mots qui pensent et se glissent sur ta peau, au corps terrorisé, mes mains de mal honteux
tremble de te toucher. Je m'approche quand même et te prends dans mes bras. Tu t'enfouis dans le creux de mon cou pour pleurer. Tu dis c'est la énième fois qu'il me fait ça. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui fondent les espoirs d'un c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, c'en était presque chiant de vous sentir heureux. Et que ça fait longtemps, déjà, qu'il te dérouille, tant il est persuadé que tu dragues au passage. Et son regard dément te fait crever de trouille quand il vient soulager. Avec ses poings sa rage, si ses poings ne suffisent pas, il frappe avec les pieds quand on vit sur le sol comme une bête inerte. Cache de tes bras ton visage, tu méfies. Alors le coup de grôle n'en est que plus alerte. Alors le coup de grôle n'en est que plus alerte. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares qui fondent les espoirs d'un c'est possible à deux. Et je trouvais charmant, idéal et bluffant de vous voir amoureux. Bien que de temps en temps, c'en était presque chiant de vous sentir heureux. Je ne reconnais pas, à travers cette ordure, celui que j'ai aimé, qu'aujourd'hui je vomis. Il n'était pas comme ça, enfin j'en suis plus sûr, il faut l'avoir été. Pour être aussi pourri, je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu.
Je suis venu vous lire, reviendra jeudi prochain. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur la page Je suis venu vous lire sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur Jet FM.
Et pour que tout ça cesse, viens. T'emmène avec moi. Je passais par hasard, je passais pour vous voir, pour retrouver un peu de ces amitiés rares